Voilà, vous écoutez Radio Campus 106.6 FM, www.campusil.com et en DAB+, sur la métropole lilloise. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la Chine, bien sûr, comme dans chaque émission Monde de Chine, avec quelqu'un qui a beaucoup voyagé en Chine et qui va nous raconter un petit peu son expérience de ce pays, qu'il a vécu donc d'une certaine manière entre 1995 et 2015. Il s'appelle Vincent Delpierre. Bonjour, monsieur Delpierre.
Bonjour.
Alors, heureux de vous accueillir à Radio Campus, un peu le hasard hein, qui fait bien les choses,
oui,
bien sûr. Et donc, vous m'avez raconté que vous avez, pendant plusieurs années, été en Chine régulièrement pour, vous avez peut-être expliqué dans quel contexte, et puis l'idée, c'est surtout de voir ce que vous en avez retenu, et peut-être comment vous voyez le développement actuel de ce pays.
Ce que j'en ai retenu, tout au début, ce qui m'a amené quand même à la Chine, c'était le travail, effectivement. Et j'ai découvert la Chine dans la région de Tianjin d'abord, parce que une partie des fabricants coréens, quand la Chine s'est ouverte, sont venus s'installer autour de Tianjin et de Qingdao, c'est-à-dire au nord-est de la Chine. Et à ce moment-là, la Chine commençait à s'ouvrir à l'extérieur. On avait donc des entreprises, notamment coréennes, qui venaient s'installer, puis des entreprises gouvernementales chinoises qui s'ouvraient à l'Occident. Donc je suis arrivé en Chine par le travail, effectivement, et sur de la conception de produits pour le sport, notamment.
Alors, premier voyage, on va dire, pour résumer, 1995.
Oui.
Est-ce que, en arrivant là-bas, vous avez été surpris, voire étonné, peut-être ?
Je ne peux pas dire que j'étais vraiment étonné, parce que j'avais déjà effectué des voyages dans des pays d'Asie beaucoup plus, une vingtaine d'années auparavant, et j'avais été habitué à voyager un peu en routard, donc à connaître des civilisations et des formes de vie très différentes, des cultures très différentes. Donc je ne m'attendais pas en Chine à trouver un pays développé comme les pays d'Europe, c'est certain. Ce qui m'a le plus semblé difficile au début, c'est la barrière de la langue et notamment de l'écriture. Même si j'étais toujours accompagné par des collègues chinois qui pouvaient traduire et avec qui je pouvais communiquer en anglais assez facilement. Mais pour se diriger seul en Chine, c'était vraiment très compliqué.
Évidemment. Et donc la première entrée que vous avez faite en Chine, c'était par quel port, par quelle voie ?
C'est toujours été par l'avion, à partir de Pékin ou de Shanghai, et puis ensuite des taxis ou des voitures qui m'amenaient à mon lieu de travail ou dans les usines où je devais aller.
Donc le premier voyage, c'était l'arrivée à Pékin, c'est ça ?
C'était l'arrivée à Pékin, oui.
Mmh. Avec quelques jours là, sur place ou pas ?
Cette fois-là, non. Je suis retourné à Pékin quelques jours ensuite, pour visiter évidemment la cité interdite et puis les différents sites de Pékin, la Grande Muraille aussi, bien entendu. Je suis arrivé les premières fois en hiver et l'hiver est assez rude dans le nord de la Chine, les températures descendent beaucoup. Et on va effectivement dans des endroits qui sont relativement peu chauffés. Les gens, on voyait dans les villages que la vie était difficile et les gens très pauvres hein, quand même.
J'ai pu vivre ça aussi dans les villages, l'hiver.
Oui.
Hein, c'est
oui.
Faut tenir.
Oui. Il faut tenir, effectivement. Et même les ouvriers, les gens qui travaillaient dans les usines avaient des conditions de vie très difficiles. J'avais pour mission de valider des techniques de production et de vérifier qu'elles étaient respectées, mais aussi de voir dans quelles conditions vivaient les ouvriers dans les usines, qui très souvent habitaient assez loin de leur domicile, du domicile de leurs parents, et qui vivaient dans des dortoirs. assez un peu entassé quand même. Donc c'est vrai que par rapport aux conditions de travail en Occident, en France notamment, c'était complètement différent.
Évidemment, c'est très différent. Encore maintenant, dans les chantiers bâtiments, il y a des bâtiments, on va dire, provisoires qui s'installent, oui. Où les gens vivent comme ils peuvent, là. Évidemment, c'est un peu serré et c'est pas très confortable, faut bien admettre les choses. Donc, à l'époque, à Pékin, c'était une capitale, c'est toujours la capitale, et forcément, c'est très vivant, et c'est aussi un centre administratif très important, je pense, oui. Le plus important de Chine.
Oui. En fait, les villes que j'ai le plus connues ne sont pas tellement Pékin, parce que les industries, à ce moment-là, se localisaient beaucoup plus autour des côtes. Mm-hmm. C'est-à-dire Tianjin, qui est le port de Pékin, qui est à peu près à 160 km de Pékin, mais aussi Shanghai, Xiamen, qui est, donc là, on est plus vers le sud-est de la Chine, et Shenzhen, qui est le pendant de Hong Kong en Chine.
Et Canton,
qui est une région qui est beaucoup plus orientée vers le textile, vers le vêtement, etc.
Alors qui a beaucoup perdu aussi en industrie récemment. Enfin, on va dire les 5 dernières années là, on va dire depuis la crise, hein, surtout.
Oui.
Donc là, il y a eu une diminution très forte de la production de textiles, puisque d'autres pays aussi ont pris le relais. Hein. Je pense que le gouvernement chinois a aussi favorisé la délocalisation, d'une certaine manière, de la production chinoise dans des pays limitrophes, en textile. Mmh. Voilà. Et effectivement, moi, j'y étais allé en 2008, la première fois, ou quelque chose comme ça. Même avant, 2006. Et la ville de Canton était très polluée encore à l'époque.
Oui.
Alors que maintenant, quand on y va, il n'y a plus de pollution. Quoi. Je veux dire, comme il y a moins d'industrie, il y a beaucoup moins de pollution dans la ville. Ça a été un des effets finalement positifs de la crise. Mais il y a eu des effets, bien sûr, négatifs.
Oui, ça m'est arrivé quand même de pas mal discuter par l'intermédiaire de collègues chinois avec des travailleurs, des personnes qui travaillaient dans les usines à la chaîne. Et effectivement, ils habitaient en général très loin de leur famille ou de leur ville ou de leur village. S'il existe vraiment des villages en Chine, c'est souvent... On dit une petite ville, mais on dit tout de suite 5 millions d'habitants.
Oui, mais il y a aussi des petits villages.
Oui, il y a des petits villages.
Dans la campagne.
Et la difficulté pour eux, c'est qu'ils arrivaient à rentrer chez eux une fois par an, au moment du Nouvel An chinois. Ils retournaient pendant une semaine, 15 jours. Il y a eu des problèmes dans la région de Canton à une époque où ils ne revenaient pas après le Nouvel An chinois. Et il manquait 10, 15, 20 millions de personnes pour faire tourner l'industrie, effectivement.
Alors, c'est vrai que les campagnes ont une économie compliquée, hein, puisque souvent les gens ont des difficultés économiques. Et je vois par exemple dans le Yunnan, et un très beau film, Les Trois Sœurs du Yunnan, si vous avez vu, non ?
Non.
Je vous conseille ce magnifique film, hein, oui. De Wang Bin. Donc c'est en fait trois enfants, entre on va dire 8 ans et 14 ans, hein, qui vivent seuls puisque les parents sont partis travailler à la ville. Et donc, elles sont dans une ferme, etc. Elles font tourner la ferme, les champs, voilà, et elles vont à l'école, etc. Donc, c'est un film documentaire, très bien fait, qui dure, la version longue, je l'ai vu en 3 heures et des poussières quand même, hein, mais qui prend le temps de positionner voilà, une façon de vivre parmi d'autres. Et voilà, donc ça exprime bien que des gens dans la force de l'âge qui ont la capacité de vendre leur force de travail vont à la ville en espérant parfois que c'est mieux. Certains en reviennent, ça dépend de l'évolution. Hein, à la campagne aussi, il y a des évolutions positives parfois, et des gens qui sont à la ville peuvent éventuellement y revenir. Et voilà, donc après, selon les moments de l'industrie, ça fonctionne ou ça fonctionne moins. Il y a beaucoup de turnover en fait. Hein, les gens sont un peu précaire d'une certaine manière.
Oui, les gens sont précaires parce qu'ils peuvent, changer facilement de travail ou d'entreprise. Et certaines entreprises payent la cooptation pour avoir de la main-d'œuvre à certaines périodes de l'année. Après, concernant la paysannerie, ce que j'ai souvent entendu de la part des Chinois, qui étaient eux des urbains, mais qui venaient aussi souvent de la campagne, c'est que le métier de fermier en Chine était un métier qui était assez déconsidéré. C'était peut-être le cas avant en France d'ailleurs. Donc peu de gens se tournent vers l'agriculture parce que ça ne doit pas payer et puis c'est des vies un peu de misère quand même, difficiles en tous les cas.
Voilà, donc l'industrialisation, c'est vrai que certaines grandes zones chinoises ont amené aussi l'enrichissement des villes et des habitants, d'une certaine manière.
Oui.
On peut dire qu'on a des effets aussi du luxe qui sont manifestes.
Oui, il y a des effets du luxe qui sont manifestes dans les grandes villes. Effectivement, la population chinoise est très tournée vers l'acquisition de biens matériels. C'est évident. Il y a eu un changement en 20 ans, une bonne vingtaine d'années, énorme au niveau des villes.
Et on voit aussi plein de voitures rutilantes dans les centres-villes. C'est assez énorme, impressionnant.
Oui.
Même il y a déjà 10 ans, il y avait déjà énormément.
Il y avait déjà beaucoup de voitures, mais d'un autre côté, ce qui s'est transformé beaucoup plus vite en Chine, c'est les moyens de locomotion, genre vélo ou mobylette. Tout ça s'est passé à l'électrique très très rapidement, parce que je pense qu'il y a eu des décisions d'État pour empêcher les moteurs à explosion de trop se développer
davantage.
Et de polluer. Ils ont déjà assez de pollution comme ça. Ah, et donc ça, c'est quelque chose qui s'est développé de façon phénoménale, avec beaucoup plus d'avance que nos pays en Europe, en tous les cas.
Et donc aussi les voitures électriques, en location comme ça, qu'on peut trouver au coin de la rue. Sur le système des vélos aussi, il y a plusieurs compagnies de vélos qui offrent leurs vélos moyennant un paiement sur le téléphone portable, et on prend le vélo, on le dépose où on veut, c'est un peu ça. Et les voitures, il y a un petit peu aussi ce parc-là qui est à disposition. Ce sont des petites voitures, pour ne pas prendre trop de place, des voitures de centre-ville, on va dire. Et voilà, il y en a quand même pas mal dans la ville, avec des endroits pour les recharger. Pour le coup,
oui, ça pour le coup, c'est quand même utile, oui.
Voilà, donc c'est vrai que nous, on a vu ça avec peut-être en France une certaine condescendance à un moment donné. Et là, on doit bien se rendre compte que l'avance technologique sur l'électrique en Chine, il est manifeste. Et aussi, à un moment donné, par rapport à la production d'électricité, capter la lumière et la transformer en électricité, c'est quelque chose où on avait une certaine avance en 1970, jusqu'en 90 peut-être. Et puis après, la Chine a pris le relais. Et alors, ce qui était drôle, c'est qu'en France, pendant un moment, il y avait des aides à l'installation
de panneaux solaires.
Mais à partir du moment où c'est la Chine qui a récupéré le marché de production de ces panneaux, les aides ont disparu. Donc voilà, on a repris du retard, mais dans l'installation, à ce moment-là.
Oui, je pense que c'est vrai que il y a quand même... Je pense qu'il y a quand même un sursaut qui va se faire en Europe sur les batteries, notamment sur la production de batteries. Mais les panneaux solaires, c'est vrai que ça s'est arrêté du jour au lendemain, pratiquement ici en France, en tous les cas.
Alors il y avait aussi quelque chose d'assez étonnant à l'époque, dans les années 95, c'était au-delà des panneaux solaires, il y avait aussi des systèmes dans les villes où il faisait très chaud, où il y avait beaucoup de soleil, tout au moins, où il ne pleuvait pas trop, ce qui est quand même la plupart des villes en Chine. Il y avait des systèmes qu'on mettait sur les toits pour chauffer l'eau, uniquement la chaleur du soleil, et qui alimentait finalement tout le circuit d'eau chaude des appartements. Ça, c'est quand même pas mal.
Ce qui est le cas dans tout le sud, dans la région de Shenzhen, Hong Kong, etc. Mais on retrouve ça pratiquement partout dans le sud-est asiatique, c'est-à-dire au Vietnam, au Cambodge, au Laos, en Thaïlande. C'est quelque chose qui est développé depuis des dizaines d'années, effectivement. On voit pas tellement, parce que c'est vrai que c'est très visible sur les constructions, c'est sur des toitures terrasses, donc on voit ces cuves en inox avec ces tuyaux qui passent de tous les côtés. Et c'est effectivement une économie, c'est de l'énergie gratuite. Hein.
Indéfinie, infinie en termes de gisement, on peut dire, hein, et non polluante. Mmh. Donc c'est étonnant d'ailleurs que nous, on ne s'en serve pas du tout en France de ce système.
Bon, je ne sais pas dans quelle mesure dans le sud de la France on commence à utiliser ça en dessous des panneaux solaires notamment, qui en récupérant la chaleur pour chauffer l'eau.
Ouais, donc voilà, c'est aussi une piste qu'on pourrait creuser davantage, je pense. Hein,
sûrement.
Plutôt que favoriser toujours les mêmes producteurs qui ont un peu le marché en main.
Oui, absolument.
Parce que là, en fait, c'est pas des marchés, c'est juste des constructeurs qui fabriquent des appareils qu'on installe. Mmh. On peut l'installer soi-même, on pose ça sur le toit, puis avec un plombier, ça s'organise.
Hein. Oui. Absolument.
Donc voilà, on n'est pas dépendant des grosses sociétés qui font de la pub, etc. Avec ce système-là, c'est une vraie autonomie, une fois qu'on a payé le matériel de départ. Je ne sais pas combien ça peut coûter. Mais bon.
D'un autre côté, dans les pays du sud de la Chine notamment, ou du sud-est asiatique, quand on prend une douche, on a tendance à prendre une douche à l'eau froide.
Ouais, ou pas très chaude, oui, c'est
pas
vrai.
Très chaude.
Bon, après, on peut se doucher pas forcément à 50, 60 degrés.
Ah,
on peut rester raisonnable. D'autant plus que souvent, on mixe l'eau chaude et l'eau froide, ce qui est un peu stupide. Que là, elle est directement à 40 degrés ou 30 degrés.
Elle est à bonne température.
Ouais, la bonne température. Voilà, donc c'est vrai que on peut être surpris d'idées, de façons de s'adapter à la chinoise, d'une certaine manière. Il y a toujours une façon de s'adapter à une condition particulière. Je pense que l'adaptabilité, c'est peut-être une caractéristique de cette population, puisqu'elle a été très vite à se développer.
Oui. Oui, effectivement. Il y avait aussi beaucoup d'opportunités pour la Chine, à partir du moment où elle s'est ouverte, parce que le coût de main-d'œuvre était peu élevé. Bon, ils avaient un certain nombre de savoir-faire, mais une façon de travailler qui était quand même très, qui n'était pas forcément très qualitative, je dirais. Mais l'adaptabilité, elle existe aussi en France ou en Europe. Et je pense que petit à petit, un certain nombre de productions reviendront en Europe par la force des choses.
Après, effectivement, on parlait de main-d'œuvre pas très chère, les salaires pas très élevés. Et depuis ces années-là, on peut dire que globalement, d'une année sur l'autre, ils augmentent presque de 10% par an. C'est quand même assez énorme.
Oui.
Ce qui fait que les prix aussi ont tendance, pas dans tous les domaines, mais à augmenter. Voilà. Par contre, dans les campagnes, c'est toujours plus dur. Il y a un vrai décalage entre le mode de vie de la ville, où tout est relativement cher, enfin, dans les grandes villes.
Hein. Oui.
Les logements, les loyers, c'est affreux, quoi.
Oui,
Pékin,
oui.
Et Shanghai ou ailleurs. Hein. Et puis la campagne où, de toute façon, les gens ne peuvent pas vivre avec davantage, donc les prix sont adaptés aussi au public local.
Oui. Il y a une grande disparité. Il y a le fait de l'augmentation des salaires dans les grandes villes côtières a fait qu'au fur et à mesure, les entreprises se sont délocalisées vers l'intérieur du pays. Et on voyait quand même la grande capacité justement de prévoir des gouvernements locaux ou du gouvernement chinois, la planification. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait une zone de développement qui avait été prévue, on commençait par construire des routes, des autoroutes, des moyens de communication. Et ensuite, il y avait des implantations d'entreprises, d'usines, etc. Ce qui n'arrive pas forcément souvent chez nous. En fait, on commence par construire des zones industrielles et après on se dit qu'il faut peut-être des moyens de transport. Il faut peut-être que les gens puissent se déplacer, etc.
Ça surprend parce qu'on voit des constructions de superbes routes rutilantes, etc. Et on se demande parfois à quoi elles vont servir. Quoi.
Ouais.
On se demande même si elles ont à terme une utilité. Et voilà, après on comprend la suite. Hein. Puis ce qui est étonnant, moi j'ai vu construire des autoroutes de l'Est de la Chine jusqu'au Xinjiang,
oui.
Au bout du Xinjiang. Hein.
Oui.
Et cette autoroute-là, elle se terminait au Xinjiang et elle commençait de l'autre côté. C'est-à-dire, pratiquement, on peut dire que c'est un chantier continu. Et qui avançait, voilà. Et moi, j'ai fait sur plus de 1000 kilomètres, donc j'ai pu voir les étapes d'un endroit à l'autre. Et alors qu'en France, on fait des petits tronçons, on en rajoute un dans 10 ans,
ouais.
etc. Que là, c'est, allez, on y va, on construit et tout s'organise
ouais.
sur le parcours.
Et ça va très vite.
Et ça va très très vite. Et puis la construction des ponts, alors là, c'est fabuleux hein, de voir la façon de construire. Parfois d'ailleurs avec des entreprises étrangères ou françaises qui contribuent hein, à ces constructions-là. Bien sûr, BTP, c'est aussi international. Et puis maintenant, cette capacité aussi de la Chine à exporter son savoir-faire et à fabriquer à l'extérieur
oui.
des ponts, des autoroutes, des TGV.
De ce inversion. Côté-là, ils apprennent très vite, effectivement,
très vite,
entre les premiers trains y a dans les années 95 et les derniers TGV, effectivement, qui relient des grandes villes. C'est assez phénoménal.
Là, j'ai vu un nouvel essai, on va dire, de TGV à 600 km/h. Bon, pas forcément qu'il va rouler à 600 km/h, mais actuellement, c'est 300, là, en gros, en
oui.
vitesse de croisière.
Oui.
Mais donc, ils ont de la réserve pour aller un peu plus vite si nécessaire.
Mais il y a toujours quand même un train qui fonctionne, qui relie l'aéroport de Shanghai au centre-ville, qui monte quand même sur un brevet allemand, je pense, d'ailleurs.
Mm-hmm.
Il monte à 440 km/h
ouais,
en vitesse.
Ouais. Ah, ça, je l'ai pris, mais il n'arrive pas directement. Enfin, il ne fait pas tout
il
parcours.
Va pas...
hein.
Non. Il arrive à l'entrée de Shanghai, en fait.
Oh. Aïe.
Pardon.
À l'entrée de Shanghai, ouais. Donc voilà, c'est quand même une expérience à vivre, de toute
ouais.
façon. Hein. Voilà. Mais après, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en prévision actuellement, ce genre
non,
de...
C'est une technologie, la technologie du maglev, de lévitation magnétique, est une technologie très complexe et très onéreuse.
Voilà. C'est un petit peu comme notre Concorde, en fait. Sauf que notre Concorde,
oui.
on l'a arrêté, mais en fait, l'idée, c'est un petit peu tester une technologie qui est signe aussi de son temps, de son époque.
Oui, qui était... au départ, qui a été développé pour concurrencer le TGV français. Hein.
Mmh.
Donc, c'est un train qui n'a pas de roue, en fait, puisqu'il est en lévitation magnétique. Mais la technologie n'a pas été prolongée. Il n'y a pas eu d'autres lignes, je pense, qui ont été créées avec cette technologie.
Voilà, donc, c'est vrai que quand on fouille un petit peu sur Internet, on peut voir des technologies futuristes qui sont à l'étude, hein, avec des essais parfois. Je pense à des systèmes de transport en commun qui sont au-dessus des voitures, en fait, au-dessus des routes, qui laissent passer les voitures en dessous comme si c'était des ponts, quoi. Enfin, il y a des choses comme ça à l'étude qui sont assez étonnantes.
Mmh.
Donc, il y a des recherches, bien sûr, en permanence. Et puis, il y a des zones de test aussi, et quand ça fonctionne dans un endroit, ça se développe parfois ailleurs.
Ouais.
C'est un peu ça l'idée, c'est d'expérimenter à certains endroits avec des autorisations spéciales dans certaines zones, des façons de faire, hein, des technologies ou même des façons de vivre.
Mmh.
Et quand ça marche et qu'on en a fait le bilan positif, ben on les développe ailleurs. C'est,
ouais.
c'est un peu ça l'intelligence peut-être de la Chine actuellement.
Il y a eu, moi je Il y a eu une grosse évolution justement dans les premières années où je remarquais quand même que les Chinois avec qui je travaillais avaient très peu d'esprit créatif, un esprit très communautariste qui était peut-être dû à une éducation très collectiviste du haut communisme. Il fallait vraiment toujours tout expliquer dans le détail pour être compris et vérifier en reformulant plusieurs fois ce qu'on disait pour être certain d'avoir été compris, parce que le chinois ne dira pas qu'il n'a pas compris. Il n'aura pas non en général, mais ça a évolué énormément pour trouver maintenant, on retrouve en Chine des écoles de design très performantes avec justement une créativité qu'on ne rencontrait pas tellement il y a 20-22 ans.
Il faut aussi dire que beaucoup de jeunes Chinois ont fait des études, en font, beaucoup d'universités, certaines prestigieuses. C'est pas pour rien qu'on parle du classement de Shanghai, d'ailleurs.
Ouais, ouais.
Et donc, il y a aussi des intelligences qui sont mises en valeur et en fonction grâce à ces études et avec des personnes qui ont maintenant des capacités d'initiative pour peu qu'elles trouvent le cadre politique.
Oui, je remets pas en question l'intelligence des Chinois. C'est pas du tout ça, mais c'est qu'elle était vraiment bridée finalement par un système qui était collectiviste et bon, les gens n'avaient qu'à suivre ce qu'on leur demandait, hein, c'est tout.
Voilà, en fait, l'initiative n'était pas forcément une valeur, que maintenant ça va forcément le devenir.
Oui. Puis il y a une autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que effectivement le système communiste était un peu un bulldozer pendant de longues années, mais on retrouve quand même des gens qui, beaucoup de gens conservent des croyances de l'ancienne culture, etc. On a l'impression que tout ça peut s'effacer par un système éducatif très rigide et très sélectif, et finalement on se rend compte que finalement ça reste quand même dans l'esprit ou dans l'âme des gens.
C'est vrai que la Chine est plusieurs fois millénaire, il faut quand même le rappeler, que la première culture chinoise qui a laissé des traces, c'était on va dire 4-5 000 ans avant Jésus-Christ, ça a commencé à bien démarrer. Puis il y a eu toute l'époque, on va dire, de cette fameuse ville qui s'appelait Chang'an à l'époque et qui est Xi'an maintenant, et qui est le début, qui était le début de la route de la soie et qui va retrouver un rôle stratégique dans ces nouvelles routes de la soie qu'on est en train de développer partout en Chine, mais aussi en Asie et bien d'autres pays qui vont se greffer au projet, si j'ai bien compris.
Oui, j'ai bien compris ça aussi. C'est une forme, on peut le considérer de différentes façons. On peut le considérer comme une forme d'expansionnisme ou on peut le considérer comme une possibilité d'échange.
Alors, c'est vrai qu'on parle d'expansionnisme, effectivement. Il faut quand même dire qu'à notre Moyen-Âge, on va dire dans les années 500, Xi'an dont je parlais, il y avait quand même 1 million d'habitants ou quelque chose comme ça, quoi. Donc c'était déjà la plus grande ville du monde. Et que, bon, finalement, certaines villes chinoises retrouvent une certaine place internationale ou mondiale. Et donc, le fait d'être le terminus de la route de la soie à l'époque, ça amenait aussi beaucoup de richesses à un moment donné. Donc, une économie forte et puis une population, avec aussi beaucoup de développement culturel à l'époque. Je parle de ça, de l'époque notamment Tang. Dynastie Tang, où là les arts se sont vraiment développés, la poésie, la danse, la musique, etc. Et je pense que ça a sans doute marqué. D'ailleurs, les poètes de l'époque Tang sont encore beaucoup lus par les élèves chinois et connus par certains adultes. Et on peut encore en entendre un peu partout. Ils ne sont pas perdus, quoi. Je veux dire, et cette culture qui s'est accumulée d'une certaine manière depuis des milliers d'années, elle s'est cumulée. Et finalement, la période récente, là, on va dire le dernier siècle, bien sûr, a apporté sa touche, mais reste dans pas forcément une continuité. Il y a eu des ruptures, mais quand même, il y a une globalité culturelle qui fait que tout ça s'est intégré par ceux qui vivent actuellement. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de Chinois sont un peu nationalistes, peut-être plus qu'avant d'ailleurs, et sont fiers de leur pays et de leur culture.
Ça, c'est évident. C'est évident. Je n'ai pas rencontré vraiment de Chinois qui critiquaient, bon, évidemment, c'est pas évident de critiquer ouvertement leur gouvernement, mais il y a aussi, bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'inscrit dans l'inconscient des populations qui retrace bien toute la culture ancienne et qui a, tout ce qui a pu être vécu depuis des millénaires. Mmh. Ça peut pas s'effacer de toute façon. C'est comme la partie cachée de l'iceberg.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que sur certaines périodes de l'histoire, il y a eu des moments très, très dramatiques, hein, du temps des empereurs, par exemple, des dynasties, des grandes dynasties. Et cette période-là est relativement bien montrée dans les médias et notamment la télévision, et des grandes séries d'une certaine manière romanesques, mais souvent très dures et sordides, hein, de l'histoire des empereurs de l'époque et de leurs concubines et de tout ce qui a été fait pour prendre le pouvoir, empoisonner d'un côté, trucider de l'autre. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est digéré d'une certaine manière. Ça fait partie de la vie normale, politique. Ouais. C'est montré avec, sans forcément de jugement de valeur, d'ailleurs, sur le fait que c'est l'histoire, quoi. Voilà. Et après. Ouais. On en prend ce qu'on en veut.
C'est assez curieux. D'ailleurs, ça serait intéressant. Moi, j'en ai regardé, mais sans comprendre forcément ce qui était dit, mais juste voir ces costumes d'époque, etc. Ça serait assez intéressant d'en voir ou sous-titré ou traduite un peu pour mieux comprendre ça.
Mmh. Après, il y a des films célèbres, hein, comme Le Dernier Empereur,
oui,
ou
bien
des
sûr.
Choses comme ça.
Ouais.
On peut avoir une compréhension un peu des choses. Hein. Puis plein d'autres, hein, de grands cinéastes chinois, il y en a beaucoup. Après, c'est vrai que le cinéma chinois, on peut dire que d'une certaine manière, il est devenu très, très commercial maintenant. Mmh. Peut-être moins politique, mais beaucoup plus commercial. Et qu'il faut aimer l'esthétique actuelle du cinéma chinois,
ouais.
Un peu lourd parfois. voilà, mais il y a des chefs-d'œuvre évidemment. Hein. Et il faut aller fouiller, quoi, comme on dit. Hein. Et quand on va au cinéma en Chine, c'est un peu différent des cinémas en France, où en France on peut avoir 5, 6 ou 10 salles. Là-bas aussi, mais en gros, tous les cinémas en même temps font pratiquement la même programmation. Il n'y a que très peu de cinémas art et essai. Il y en a dans certaines salles, mais pas beaucoup. Il n'y a pas un énorme public non plus pour ça. Ça peut peut-être venir avec des étudiants. Hein. Enfin, j'en ai vu quelques-uns qui étaient intéressants. Voilà, qu'on n'a pas forcément vu beaucoup en France non plus. Par contre, il y a des films chinois qu'on a vus en France et qu'on ne voit pas forcément beaucoup en Chine. Et puis, la durée de vie au cinéma des films est très courte, contrairement après où on peut retrouver ces films sur des sites web, voilà, par abonnement, etc. Là, ça dure après. Mais la période de vie en salle, c'est 3 semaines, 1 mois, après c'est fini, vous ne les verrez plus. Hein. Faut les voir tout de suite.
Oui, mais après, s'il y a une population énorme qui va les voir, c'est.
Bien sûr, c'est ça.
Ça fait beaucoup de spectateurs.
Voilà. Donc c'est vrai qu'on a du mal à imaginer l'immensité de la population. Quand on dit 1,3 milliard comme ça, ça paraît. Bon, c'est un chiffre, mais quand on se rend compte de la réalité de ce nombre de personnes, on se dit que c'est une autre façon de voir la vie, la société, l'organisation aussi.
Oui, concernant la culture, en fait, on a l'impression que la Chine est une population homogène. Il y a quand même plus de 50 ethnies différentes en Chine. Mmh. Avec des langues ou des dialectes, dans certaines régions, la population reste très attachée à ses traditions et à sa langue. Hein. Le gouvernement chinois a quand même utilisé une méthode, en tous les cas au Tibet, et c'est ce qu'ils sont en train de faire au Xinjiang, en amenant de la population Han pour créer une population qui devient plus importante en nombre et qui prend la domination des minorités existantes.
Après, par exemple, quand il y avait la politique de l'enfant unique,
Oui.
Qui s'est un peu arrêté là, avec des résultats pas forcément meilleurs, parce que finalement, les gens n'ont plus trop envie de faire des enfants en Chine. Bon, enfin, j'espère que ça va s'arranger pour retrouver un équilibre pyramidal des âges. Les différentes ethnies, hein, qui n'étaient pas majoritaires, avaient la possibilité d'avoir plus d'enfants que les autres. Donc, pour garder un certain nombre, une masse critique, on va dire, à ces ethnies, hein, qui sont considérées comme constituantes, on va dire. Tous les Chinois Han que je connais, sont très heureux d'avoir plein d'ethnies dans leur pays et en sont très fiers, hein, de la diversité culturelle. Après, il y a des problèmes spécifiques dans les zones que vous venez de signaler, effectivement. Et puis aussi, l'idée que il y a beaucoup, beaucoup de Chinois qu'il faut quand même faire habiter quelque part, et que c'est pas aussi simple. Une fois qu'on a encombré les grandes villes, il arrive un moment où à 30 millions, ou 40 millions, ou 50 millions d'habitants, ça devient difficile. Il faut trouver d'autres zones, quitte à aller dans les déserts pour intégrer des populations. Peut-être pour doubler aussi celles qui y sont déjà. Ça peut créer effectivement des problèmes de proximité.
Effectivement.
Voilà, donc tout ça pour dire que la Chine est un corps dynamique et que donc il y a des effets de mouvement, des mouvements de personnes, de circulation, d'installation. Et puis il y a eu un gros souci aussi, c'est le fait que beaucoup de zones ont été déboisées à un moment donné. Donc avec le problème de sécheresse, etc., les cours d'eau qui manquaient aussi au niveau des débits, etc. Et que donc là, il y a eu un gros effort qui a été fait de reboisement, de reforestation, etc. Faudra sans doute un peu de temps. Puis il y a tous ces déserts, hein, qui ont été élargi du fait de la sécheresse, et couper le bois, ça va bien un moment, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il faut se chauffer, hein, l'hiver. Comme vous le disiez, il y a des endroits où il fait très froid.
Très froid.
Et donc, entre se chauffer et puis brûler les ressources utiles pour d'autres choses, c'est toujours un combat aussi de l'homme avec la nature, ou contre la nature parfois.
Oui, justement, sur les questions de reboisement, c'est assez étonnant la puissance justement de la planification chinoise, parce que quand ils décident de reboiser, j'ai vu des régions où ils reboisaient des montagnes complètes, et c'est absolument phénoménal, c'est incroyable.
Même au sommet de la montagne, c'est dense et on se dit c'est pas possible.
Et ça plante, et c'est bien aligné et tout.
Alors, le problème, c'est peut-être trop bien aligné, parce qu'en souvent, il n'y a qu'une seule essence ou deux, et ça manque un petit peu de complexité.
De diversité.
Donc ça, il va falloir qu'ils recalculent ça pour qu'il y ait, même au niveau de la population animale qui peut y vivre, forcément. Une richesse, c'est nécessaire aussi à une vie, même animale. Hein,
pour,
voilà. Donc tout ça, ça va s'ajuster. Mais déjà, l'idée d'avoir reboisé en force pour aussi permettre au sol de rester en état, pas trop se disperser, et puis de prévoir aussi des échanges, vapeur d'eau, récupération de ceci et envoi de cela, pour permettre de solutionner un minimum les dégâts antérieurs, on va dire.
Oui, c'est certain que ils ont beaucoup de travail à faire.
Voilà, en tout cas, on les sent capables et puis volontaires, hein, c'est déjà ça. Et puis, ils ont une certaine possibilité, je veux dire, en termes de structure, à peser sur leur avenir.
Absolument.
Bien, merci pour ces réflexions, Vincent Delepierre. J'étais très heureux de vous accueillir à l'antenne de Radio Campus. Et l'émission de Chine se termine maintenant. On vous donne rendez-vous à la rentrée, le premier samedi de septembre. D'ici là, je serai en Chine normalement. Tout va bien. Une petite chanson pour terminer, qui n'a rien à voir avec la Chine. Pourquoi vous l'avez choisie ?
Parce que j'aime bien l'italien, et puis j'avais rencontré Gian Maria Testa dans le métro de Lille quand il était en construction, où il était venu faire un concert, voilà, et c'est à son âme, parce qu'il est décédé en fait l'année dernière.
Voilà, on se quitte donc sur cette magnifique chanson.
Che è la mia, con alte cattedrali che sembrano montagne e campanili neri come alberi di cuccagna, dove diavoli di pietra strappano nubi al cielo con il filo del giorno come unico viaggio, con la pioggia che sola ti dice buonasera, con il vento di ottobre sentitela afferrare questa pianura.
Bonjour, je m'appelle Zanzi, je viens de Chengdu, en Chine. Je vous souhaite bonne écoute de Radio Campus, Université de Lille.